de partager ensemble la parole de Dieu maintenant, et j'aimerais introduire ce partage par deux textes très, très brefs. On va commencer par un texte qui se trouve dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2. Un Corinthiens chapitre 2, et on va lire ensemble simplement les deux derniers versets, les versets 15 et 16. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen.
Amen.
Et puis, dans un autre passage, dans la première aux Thessaloniciens, premier épître de Paul aux Thessaloniciens, excusez-moi, deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 3. Et les versets 1, 2, 3, 4 et 5. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous, et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Et ce verset 5, il va m'intéresser particulièrement, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Amen. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Quand on le lit, la première impression qu'on a, c'est que c'est une chose qui paraît simple. Mais dans la réalité, le fait que le Seigneur réussisse à diriger nos cœurs, eh bien, c'est un défi compliqué et qu'il faut sans cesse réévaluer, remettre en question. Ce qui est sûr, c'est que notre Dieu veut diriger nos cœurs. Parce que la partie la plus essentielle de notre personne, c'est pas notre aspect extérieur, on l'a bien compris, hein, mais c'est notre cœur. Notre cœur avec tout ce qu'il comporte de changeant et de fluctuant. Je ne sais pas comment vous êtes, mais je pense qu'on est un peu pareil. On est créé de la même argile. Hein. Dans une même journée, dans mon cœur, je peux vivre la météo de la Normandie. C'est-à-dire que je peux avoir les quatre saisons dans la même journée. D'ailleurs, les Normands, ils ne sortent jamais de chez eux sans le parapluie, même au mois d'août. Parce qu'ils peuvent commencer avec le printemps. Ils peuvent manger sous une averse violente, et l'après-midi, c'est l'été, et puis ils peuvent se geler la moelle épinière dans la même journée. J'ai fait une mission en Normandie et j'ai vérifié que c'était pas de l'imaginaire, c'est bien concret. Mais quelquefois, mon cœur, avec ce qu'il vit, ce qu'il ressent, ce qu'il contient, ressemble à la météo normande. Il faut pas grand-chose pour que mon cœur passe de la sérénité à l'inquiétude. Pas grand-chose. Pour en allant au courrier que je lise un truc, service des impôts, déjà, ça commence à, il y a des nuages qui arrivent, vous voyez, ça remplit mon ciel qui était bleu de choses plutôt désagréables. Et puis, voilà, il y a des enveloppes, rien que vous voyez la face, vous dites, oh là là, qu'est-ce que j'aurais fait encore, hein? Il faut pas grand-chose. Un coup de téléphone, un SMS, une mauvaise nouvelle qui parvient à mon oreille et la météo intérieure change. C'est pourquoi mon Dieu qui m'aime et qui veut maintenir à l'intérieur de moi-même toujours quand même un rayonnement, une sérénité, sa joie, son espérance, va toujours travailler à diriger mon cœur, à diriger mon cœur. Et je voudrais que nous puissions réfléchir quelques instants sur ces choses. J'avais 15 ans, je n'avais pas encore entendu l'évangile. Mes parents, au mois d'août 70, m'ont inscrit à un camp d'ados en Bretagne, à Morlaix. Et d'ailleurs, c'est le seul camp que j'ai fait non chrétien dans ma vie. Et je me souviens de ce jour où la direction avait programmé une initiation à la voile. Et donc, deux par deux, on a embarqué dans des voiliers avec des équipes expérimentées, hein, bien sûr. Et à un moment donné, une des animatrices, une des monitrices me regarde. On avait pris un petit peu de recul, hein, par rapport au littoral. Et elle me dit, tu veux prendre le gouvernail? Pas de problème. Ouais, pour tenir un bout de bois, ça va, je sais faire. Hein. Et j'ai pris le gouvernail et pendant 3 minutes, je m'appelais Magellan. Je me prenais vraiment, l'océan Atlantique s'ouvrait à moi. Hein. Je partais à la découverte. Voilà, pendant 3 minutes. Pendant ce temps, les trois moniteurs, deux filles et un garçon, parlaient entre eux, ils blaguaient, etc. Et au bout de 3 minutes, celle qui m'avait confié le gouvernail fait des yeux comme ça, et elle se jette sur moi, elle me pousse, elle prend le gouvernail, elle redresse le bateau, et elle m'a dit, mais tu voyais pas, on allait se clasher. Il nous amenait dans les rochers, on allait se fracasser. Bon, je n'avais pas vu, je rêvais à découvrir l'Amérique, etc., moi, vous voyez. Et heureusement que elle a eu ce geste finalement infiniment salutaire d'actionner le gouvernail pour ramener le bateau dans la bonne direction. J'aimerais, frères et sœurs, dire ceci. Dans son action directrice sur mon cœur, Dieu veut parfois, et en tout cas aussi souvent que c'est nécessaire, actionner le gouvernail pour me ramener dans la bonne direction. Et ce gouvernail, je l'appellerai le gouvernail de la repentance. Ça fait moins sourire. C'est le gouvernail de la repentance. Parce que la repentance a comme résultat immédiat de remettre le bateau dans la bonne direction. La repentance. Vous savez, le bon choix. Pour se repentir, point n'est indispensable d'avoir commis des choses éclatantes et qui soient flagrantes. Plus on est près du Seigneur et plus on est sensibilisé au témoignage du Saint-Esprit qui veut actionner chaque fois que c'est nécessaire le gouvernail de la repentance. La repentance, elle te permet de rectifier. Le gouvernail va corriger les efforts, les déviations que les courants ou les vents tourbillonnants peuvent produire parce que le but de ton Dieu, c'est que tu arrives à bon port. Amen. Le but de ton Dieu, c'est de t'éviter de se cracher, mais que tu arrives heureux, vainqueur, plein de reconnaissance et de louange à bon port. Et je dis une chose, frères et sœurs, c'est que dans la vie d'un chrétien et un pasteur, celui qui nous parle notamment, c'est un chrétien, il y a besoin, malheureusement, fréquemment besoin, que Dieu actionne le gouvernail pour corriger pour la navigation, n'importe comment. La navigation, dès les premiers navigateurs, on a compris et on s'est même doté d'instruments de mesure, on a compris la nécessité de corriger, de corriger, de corriger sans cesse, de faire le point, une évaluation. Où en sommes-nous? Est-ce que nous sommes vraiment dans le bon cap? Et alors on corrige. À l'époque, il y avait des compas, des cartes, etc. Maintenant, il y a des moyens technologiques plus évolués, mais la démarche est toujours la même. Mon Dieu veut diriger mon cœur, et c'est pas d'un coup d'un seul, mais c'est pas une succession fréquente de corrections, de remises dans le bon cap, afin que j'arrive à bon port. Qui veut arriver? Non, plus. On est tous. On veut tous arriver, parce que l'important, c'est d'arriver. Hein? Amen. Parce que prendre la mer et faire un certain parcours pour voir pour X facteurs, le bateau sombrait, quel dommage. La volonté de Dieu, lorsque je commence ma marche avec Christ, c'est de me mener vainqueur à l'aboutissement et au succès de la foi persévérante. Et pour ceci, je le répète, il faut sans cesse que je permette au Seigneur, par son Saint-Esprit, eh bien, de réajuster. Jésus dira, oh, je vous enverrai le Consolateur, l'Esprit de vérité, et il vous conduira, il vous conduira. Et dans ce verbe, moi, je vois tous les réajustements que le Saint-Esprit veut faire, parce que mon cœur, je le répète, c'est un domaine fluctuant. Les dispositions de mon cœur peuvent aller d'un extrême à l'autre pour pas grand-chose. Je peux commencer un merveilleux dimanche et vivre un lundi épouvantable. Je peux vivre un dimanche après-midi, et ça m'est arrivé d'expérimenter ceci dans une église où j'ai été en responsabilité. Je peux vivre un merveilleux dimanche avec des baptêmes, des témoignages de vie transformée, et je suis vraiment plein de bonheur céleste. Et puis, ce jour-là, j'étais en train de fermer la porte à clé, et sur le parking derrière, j'entendais des vociférations. C'était un couple de chrétiens qui se chamaillaient avec une chrétienne là-bas. Il y a un quart d'heure, on chantait des louanges du Seigneur. Faut pas longtemps, il faut pas grand-chose pour que les dispositions de notre cœur fassent du meilleur au pire. Mais heureusement, Dieu veut diriger nos cœurs. Et quand ils ont dévié, eh bien, le plus vite possible, il veut réajuster, que son nom soit béni. Ma Bible me dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et on peut dire fille de Dieu. C'est pas simplement enfant, parce que l'enfant a une certaine dose d'immaturité encore. C'est pas de sa faute. C'est normal quand on est enfant. Mais quand on est fils et fille, c'est qu'on a acquis une oreille sensible et qui comprend et décrypte les signaux divins qui veulent conduire nos cœurs, rectifier, si besoin, la trajectoire, que le Seigneur soit béni. Alors, nos cœurs, ton cœur, le mien, de quoi parlons-nous? Dans le cœur, ou dans l'âme, il y a trois domaines essentiels. C'est la pensée, c'est l'affectif, ou le sentiment, et c'est la volonté. Dans notre cœur, il y a ces trois domaines. Et Dieu veut conduire, catalyser, orienter ces trois domaines. J'ai envie de dire qu'il y a un ordre chronologique. C'est comme ça que j'ai compris les choses. Après, bon, ça commence par la pensée. Ça commence par la pensée. D'ailleurs, il y a de nombreux textes des Écritures où des tragédies se sont produites, mais quand on remonte à l'origine de ces tragédies, Ça a commencé par une pensée. Ne serait-ce que la tragédie dans le jardin d'Éden, c'est une pensée assassine, mais tellement subtile, que le diable a susurré aux oreilles d'Ève, Dieu a-t-il vraiment spécifique? Ça fait une pensée. S'il est un domaine dans ma vie, dans ta vie, qui attire toute l'attention de Dieu, c'est le domaine de nos pensées. S'il y a un domaine où l'ennemi va te livrer les batailles les plus acharnées, c'est le domaine des pensées. On pourrait presque dire, dis-moi ce que tu penses et je te dis comment tu vis. Parce qu'il y a un phénomène de cause à effet direct. Si je pense mal, je vis mal. Et si je pense bien, alors c'est l'épanouissement, la sérénité, la stabilité intérieure, une position mature, établie, assise dans le Seigneur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, et nous l'avons lu, dira, eh bien, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous, les chrétiens, nous avons la pensée de Christ. Le cap vers lequel Dieu cherchera toujours à nous maintenir en dirigeant, en corrigeant, en rectifiant, c'est le cap de la pensée de Christ. Combien de fois les disciples ont-ils été en décalage par rapport à la pensée du Seigneur Jésus? Au point que, tant de fois Jésus leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans votre cœur? C'est incroyable la facilité, la promptitude avec lesquelles les disciples dérapaient complètement dans le domaine de leur pensée. Ils pensent que c'est un fantôme, et puis quand Jésus le renseigne sur le pain qui descend du ciel, en fait, il parle de lui, mais ils pensent qu'il fait mention de la multiplication des pains. Là, ils n'avaient pas compris la multiplication des pains. Vous voyez, ils avaient l'intelligence dans le brouillard, et ils avaient ainsi toutes sortes de pensées vraiment en décalage avec celle du Seigneur. Et la volonté de Dieu, mon frère, ma sœur, c'est de t'initier, parce que ça ne s'apprend pas sur les bouquins, ça ne s'apprend pas en surfant sur Internet, mais c'est dans ton intimité et dans ta relation profonde, étroite avec les Saintes Écritures, que tu vas permettre ce développement en toi de la compréhension de la pensée de Christ. Elle est parfaite, la pensée de Christ. Elle est bonne. Gloire à Dieu. La pensée de Christ, elle nous oriente toujours sur le chemin de la vie, de la victoire, de l'encouragement, de la bénédiction. Alléluia, c'est la pensée de Christ. La pensée du roi, des rois, de celui qui tient tout dans ses mains. Et sa pensée, le Seigneur des Seigneurs, il veut nous la communiquer, que Dieu soit béni. Domaine de la pensée. Et forcément, ma pensée va influer sur mes sentiments. Parce que si je pense mal, ça va troubler mes sentiments. Et là, dans notre cœur, il y a le domaine des sentiments. Le siège affectif. Les dispositions de notre cœur. Et voilà, et nous pouvons expérimenter les sentiments les plus contrastés qui soient. Nous pouvons être agités, apaisés. Nous pouvons être pleins d'espérance ou plongés dans la déprime. Nous pouvons intérieurement, sur le plan affectif, vivre des situations et des ressentis très, très contrastés. Mais Dieu veut veiller sur nos sentiments. Et Dieu veut diriger nos sentiments. C'est l'apôtre Paul qui écrit ces lignes admirables et que l'on trouve dans les Philippiens au chapitre 2, au verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et puis, cette parole magnifique, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Mais c'est une prière que je nous propose. Seigneur, mets en nous des sentiments. Amen. Alléluia. Que tes sentiments m'habitent. Que tes sentiments m'inondent, influent sur mon cœur et orientent mes sentiments vers les sentiments de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Les sentiments de Christ sont admirables. On est bien d'accord? Oui ou non? Mais les sentiments de Christ sont aussi un modèle à imiter. On est toujours d'accord? Nous sommes appelés à être des imitateurs de Jésus-Christ. Des sentiments. Et puis, le troisième domaine dans notre cœur, c'est celui de la volonté. La volonté. La volonté que Dieu va s'employer à persuader, à faire infléchir dans le sens de sa volonté. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Et ce n'est pas souvent facilement et volontiers que notre volonté embrasse celle de Dieu. Il faut reconnaître qu'il y a besoin de prendre parfois les armes et les résistances pour que la volonté de Dieu puisse pleinement s'exercer dans notre navigation. Job dira, j'ai fait plier ma volonté à tes paroles. Amen. J'ai fait plier ma volonté, donc c'est une démarche bien consciente, personnelle. Il a choisi cette démarche de faire plier sa volonté aux paroles du Seigneur. Vous savez ce que Jésus a dit un jour à ses disciples qui venaient de faire les courses à Auchan. C'était midi passé, c'était le moment de manger, et alors ils le pressaient de manger, et le Seigneur Jésus va leur tenir ses paroles. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. C'est sa nourriture, mais je pense que il n'est pas exagéré de dire que nous devrions, chacun pour notre part, nous appliquer ce verset en disant, mais moi-même, Jean-Marc, cher Christian, je veux prendre cette position en disant ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé aussi et d'accomplir son œuvre, les œuvres qu'il a préparées d'avance pour que je les accomplisse. Se nourrir de la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qui ressort dans certaines prières de Christ lorsqu'il dira, je fais toujours la volonté de mon Père, même aux heures accablantes de Gethsémané, où il va transpirer des grumeaux de sang, il prend la victoire et il confirme son choix, toutefois, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Gloire à Dieu. Et Dieu veut diriger mon cœur dans ces trois aspects de mon cœur. Les pensées, les sentiments et la volonté que le Seigneur soit béni. Et l'apôtre, donc, précise ceci, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. Voilà donc deux objectifs que Dieu va sans cesse, en rectifiant les déviations, nous permettre d'atteindre l'amour de Dieu et la patience de Christ. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas de l'affinité humaine, de la sympathie. Voilà, ce n'est pas non plus des relations intéressées, mais c'est l'amour sublime, l'amour de Dieu, l'amour éternel. Je t'aime dans l'amour éternel. C'est l'amour de Dieu. Plus inconditionnel. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que le fait que tu te trouves dans une situation peu élogieuse n'empêche pas que Dieu t'aime toujours. Ça ne remet pas en question l'amour de Dieu. Quelquefois, inconsciemment, on se fabrique une image d'un Dieu à l'image de l'homme, dont l'amour pourrait fluctuer en fonction de nous. Si nous sommes dans une phase vraiment rayonnante, et ce qu'on dit ça, Dieu nous aime, hein. Et si nous traversons des vallées sombres, inconsciemment, on doute, on vacille, on n'est plus aussi convaincu. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime, que tu sois en forme, que tu sois pas en forme, c'est pas ça qui va influer sur la perfection de son amour. Gloire à Dieu. Quelles sont les mamans qui aimeraient leur enfant d'un amour conditionné à son état de santé, de son humeur? Tu es la maman, tu aimes ton petit inconditionnellement, c'est ton petit. Oui ou non? Un jour, un couple âgé de l'église, en lisant les faits divers, ont découvert que leur fils, une trentaine d'années, venait d'être saisi dans une affaire de deal et de drogue. Il me venait tout à la semble depuis bien des années. Et le papa me disait, regardez, frère, que nous l'avons vu, il avait les yeux, il m'a dit, regarde. Et il me disait, mais ça reste une fils. On est ulcéré, on est mortifié, mais notre amour paternel, maternel demeure. Alors, si c'est le cas pour des personnes faillibles comme nous, combien plus on peut l'appliquer à l'amour de Dieu. Alléluia! Un amour égal, qui ne fait pas de différence. Avec Dieu, il n'y a pas les chouchous et les frustrés. Il y a les enfants de Dieu. Et ça, le fils aîné de la parabole n'avait pas compris. Et quand il voit le père faire la fête parce que le tout jeune revient repentant, il comprend pas le fils aîné. Parce qu'il n'avait pas compris la qualité et la dimension de l'amour de Dieu. Alors ce bon rien qui a dilapidé ton argent et qui a déshonoré ton nom, il revient et tu fais la fête. Et moi, tu m'as même pas donné un burger pour faire la fête avec mes copains du quartier. Et il n'était pas content que son frère soit revenu. Et l'amour du père. Comment ne pas se réjouir quand mon frère, pardon, qui était mort, est revenu à la vie. Et puis toi, mais tout ce que j'ai est à toi. La beauté indescriptible de l'amour du Père. Et bien c'est comme cela que le Seigneur nous aime. Sans pour autant oublier ceci, frères et sœurs, c'est que si l'amour ne m'habite pas et n'inspire pas mon service, tout devient caduque. 1 Corinthiens 13. qui nous donne le concours que l'homme serait capable des actes les plus admirables et au mystère en même temps ne pas avoir d'amour. C'est étonnant, ça. Je peux même donner ma vie, et si je n'ai pas l'amour. Je peux distribuer mes biens si je n'ai pas l'amour. Je peux avoir la foi, déplacer des montagnes, et si je n'ai pas l'amour. Je me dis, est-ce que c'est possible? Alors, c'est écrit, c'est possible. C'est mystérieux, mais c'est possible. Ce vers quoi Dieu porte son attention en premier lieu, c'est l'expression de son amour dans la vie de ses enfants et à travers eux. C'est pourquoi, revenons à ce merveilleux chapitre du 1 Corinthiens 13, qui nous dépeint toutes les facettes de l'amour de Dieu en nous, qui espère tout, qui croit tout, qui supporte tout, et voilà, l'amour est patient, etc. Et puis quand même, disons, allons jusqu'au verset qui nous dit qu'il y a trois choses qui donnent. Tout le reste, vous voyez, moi, ma jeunesse, elle est passée. Il y a plein de choses qui passent. Trois choses qui donnent. La foi, l'espérance, et l'amour, et la plus grande de ces trois choses, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Un amour pur, d'une valeur inestimable. C'est miraculeux. Là, on est dans le divin. Mais comme on est des enfants de Dieu, on est appelé à vivre le divin, parce que la vie qui nous habite est divine. Alléluia! Et bien sûr que pour vivre ça, ben il faut qu'il corrige, qu'il rectifie. Ah, le gouvernail, il faut l'actionner souvent. Hein. Bon, pas vous, parce que pour vous, c'est si facile. Mais moi, j'ai du mal. Je dis, Seigneur, allez, rectifie la trajectoire, parce que là, j'ai laissé un petit peu d'amertume, j'ai laissé un petit peu de ressentiment. Oh, Seigneur, j'ai beau me dire et me raisonner, mais j'ai une petite pointe là, ça passe pas. C'est coincé là. Il y a une épine de poisson qui s'est figée dans. Voilà, et ça va pas. Seigneur, rectifie, rectifie. Si humblement et avec vérité, j'expose mon âme à l'influence de mon Père Céleste et par son Saint-Esprit, il va corriger, il va rectifier, que le Seigneur soit béni. Vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Il est patient, hein? Parce qu'il n'avait pas été, on ne serait pas là. Et vous n'auriez pas eu prédicateur. Et il n'y aurait pas eu d'auditoire non plus. Mais si nous sommes là, c'est parce que il y a la patience de Christ. D'ailleurs, l'apôtre Pierre nous dit que la patience de Christ, c'est notre salut. Alléluia. La patience de Christ. La patience de Christ, mes bien-aimés, ce n'est pas de la faiblesse. Nous savons bien que notre Seigneur ne comporte aucun aspect faillible. Quand Christ patiente, ce n'est pas un aveu de faiblesse. La patience de Christ, ce n'est pas du désintérêt, de la paresse, de l'indolence. Il y a des situations où les disciples de Jésus ont voulu être meilleurs que leur Seigneur. Ils ont voulu être expéditifs. Mais la patience de Christ a pondéré les ardeurs. D'ailleurs, à un moment donné, peut-être dimanche, on en parlera, je lui ai dit, mais vous ne savez pas de quel esprit vous examinez là. Il a calmé les ardeurs, qui étaient des ardeurs charnelles, hein, tout le monde. La patience de Christ. La patience de Christ, ce n'est pas de la faiblesse, de la passivité. Quelle patience! J'ai envie de dire, quelle patience! Alors ça peut sembler un petit peu paradoxal. Christ exerce une patience admirable pour calmer nos excès et une patience aussi admirable pour stimuler nos lenteurs. Quelquefois, on est dans l'excès. Quelquefois, oh homme! Qui est lent à comprendre, à croire, nos lenteurs. Le Seigneur, par sa patience merveilleuse, nous donne de faire des progrès. Vous voulez progresser? Moi, j'ai des progrès à faire dans ce que j'ai fait. J'aimerais être plus ressemblant au Seigneur. C'est la patience de Christ. La patience de Christ est une patience joyeuse. Il y a une version qui, dans ce texte, la patience de la patience de Christ, dit l'attente de Christ, l'attente. Donc ce n'est pas une patience résignée, fataliste, morne, mais c'est une patience qui est une attente. Gloire à Dieu, c'est une patience habitée d'espérance. Et ça me fait tellement de bien à me prêcher moi-même ceci. Quand Dieu me regarde, il voit tous mes besoins, mes manquements, mes déficits, les progrès à faire. Mais il attend, il attend, il a de l'espérance. L'apôtre dira, nous attendons de votre part des fruits meilleurs. C'est la patience de Christ qui est une patience. Qui est là, vigilante, attentive, et il espère des fruits meilleurs. Gloire à Dieu. Moi, j'ai un petit potager, vous allez finir par le savoir maintenant. Quelquefois, là, pardon, cette année-là, j'ai eu zéro abricot. Et je ne savais pas ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais ce n'est pas une année à abricot. J'espère que l'an prochain, tu vas m'en donner. Hein? J'attends, on attend. C'est une patience, mais qui nous fait vibrer de l'intérieur. Et quand le Seigneur porte ses regards sur sa chère Église, en faisant le constat objectif, il attend de son Église des progrès, des victoires, des transformations glorieuses. Le Saint-Esprit a aussi ce ministère de nous transformer de gloire en gloire jusqu'à la conformité au divin modèle qu'est le Seigneur Jésus. La patience de Christ, c'est une patience joyeuse, une attente. J'ai envie de dire aussi la patience de Christ, c'est la patience du divin formateur. Parce que je sais pas vous, mais moi je suis pas une argile facile à... J'ai des parties, c'est résistant. Un jour, on était en vacances, dans le coin de Grasse, tout ça, il y avait un potier. Et je me suis dit, oh, chérie, on va aller voir le travail du potier. On a été voir le potier. J'ai été impressionné. Hein. Parce que quand on est arrivé dans l'atelier, il était justement en train de travailler une masse d'argile. Écoutez. Je me dis, comme je l'ai vu, tourner les gifles, des plaques, à la rue, pom, 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 il n'y va pas de main morte, mais c'était indispensable pour quand même assouplir l'argile. Et puis, une fois qu'il sentait que l'argile était, eh bien, malléable, alors il a commencé sur le tour à faire selon ce qu'il avait dans sa tête, n'est-ce pas? C'est la patience du formateur. Je ne suis pas un bon élève. Je suis lent à me laisser transformer par le Seigneur. Et j'aimerais être plus souple. J'aimerais être un disciple plus facile à instruire, à manier, à façonner. Mon ancien caractère. Alors, bien sûr, théologiquement, je dis qu'il est crucifié, mais c'est vrai d'un côté. Théologiquement, c'est vrai. Alors, quand le vieil homme qui est crucifié fait des soubresauts, oh là là, lui, Seigneur, il a encore du travail à faire. Mais tu es un bon formateur. Dieu est un bon formateur. Et il veut te former. Dieu dit, mes mains, et donc, bon. On pourrait dire que le Seigneur nous a sauvés et le Seigneur est en train de nous former. Et là, bien sûr, personne ne dit Amen. Mais pourtant, c'est la vérité. Mais c'est un bon formateur parce que c'est un formateur patient. Alors, tout à l'heure, je disais la patience contient l'idée de la joie, l'attente, mais là, la patience contient l'idée de la persévérance. Parce que il arrivera toujours à son aboutissement. Amen. Et même si tu penses être, c'est tout cas, une argile pas facile, mais le Dieu qui a décidé de te former réussira à aboutir. Et quand le vase d'honneur sera achevé, toute la gloire lui reviendra, pas au vase, mais au potier. Amen. Un bon formateur, il est patient. Gloire à Dieu. Il est patient dans le sens qu'il est opportun. Il a son temps. Nous, suivez-moi, suivez-le. Mais Christ a son temps. Il a son temps. Il est opportun. Je ne vais pas trop m'étendre parce que l'heure avance, mais je vais dire à quelqu'un, dans ta problématique, Dieu a déjà fixé son temps. Mais il fait toutes choses belles en son temps. Il a peut-être l'impression que ça va pas assez vite, mais attends le temps de Dieu. C'est la patience de Christ, qui est une patience inspirée. Alors bien sûr, Lazare était malade. Et Marthe et Marie, forcément, touchées par ça. Elles envoient vers Jésus un messager. Viens vite, celui que tu aimes, Lazare est malade. Et Jésus ne bouge pas. Il se passe encore 2 jours. Et il y a un temps qui arrive où Jésus dit, c'est le moment. Allons voir notre ami Lazare. Et vous connaissez quel accueil on lui fait? Si tu avais été plus réactif, hein? Mais ça y est, maintenant, Lazare, votre frère, est mort. Mais le Seigneur sait toutes choses. Il contrôle tout. Il a son temps. Et au lieu d'une guérison qu'il aurait pu prononcer à distance, c'est une réanimation. Il a réalisé avec puissance et gloire que Dieu soit béni. Et je termine ce message, mes frères et sœurs, en disant que comme l'amour de Dieu est un modèle à imiter, il en est ainsi de la patience de Christ. La patience de Christ est un modèle à imiter. Alléluia. Amen. Tu es étonné, moi, à chaque fois que je repense à ce personnage, le Seigneur que tu es grand. L'homme de 40 ans qui voit un Égyptien rudoyer un Hébreu est tellement violent, impulsif, il donne un coup de poing et il le tue. 40 ans après, il devient l'homme le plus patient de la terre. De Moïse. Je suis émerveillé par ce que Dieu est capable d'accomplir. Gloire à Dieu. Moïse est devenu l'homme le plus patient de la terre. Et il fallait bien cette dose de patience pour conduire l'église des Hébreux du désert, le peuple qui était. Dieu le dit, un peuple au cou roide, hein? Un peuple rebelle au cou roide, ben il fallait la patience. D'ailleurs, vous savez, quand l'apôtre Paul parle des signes de son apostolat, il ne met pas en premier ses miracles, hein? Même s'il a vécu des choses extraordinaires. En premier, une patience. Bien que Dieu dirige nos cœurs. La patience de Christ. Alors, c'est peut-être là un domaine où il y a de grosses rectifications à faire pour réajuster. Mais que l'Esprit du Seigneur, dont un aspect du fruit est la patience, développe la patience divine dans ton cœur, dans mon cœur. Soyons patients lorsque nous-mêmes sommes éprouvés. Amen. Soyons patients lorsque nous pensons que tel frère, telle sœur ne fait pas des progrès assez rapides. Soyons patients avec les autres. Alléluia. Soyons patients et laissons Dieu agir en son temps, parce que c'est là qu'il fait toute la en son temps. Amen. Est-ce qu'on peut prier?